Débat IMO, une émission proposée par Wininvest sur Radio IMO et Radio Territoria.
Les amis, bonjour, vous êtes sur Radio IMO, on est ravis d'être avec vous, avec notre partenaire Wininvest, Débat IMO, numéro spécial justement sur un thème d'entrepreneuriat, créer une agence immobilière en 2026. Est-ce que c'est un mythe, une réalité, une folie ou une formidable opportunité? En fait, est-ce qu'on peut être contracyclique ou prendre les personnes à contre-pied dans un climat immobilier qui, disons-le, a du mal à regagner du moral? Alors pour cela, nous avons réuni un plateau de grands professionnels de l'immobilier, bien sûr, pour en parler, parler d'entrepreneuriat, parler de la qualité de notre métier, du fait qu'on a besoin également de compétences et de développement, avec Xavier Bellevaut, comme toujours, président de Wininvest France. Merci d'être avec nous.
Bonjour Sylvain, merci.
Merci Xavier d'être avec nous. Également quelqu'un que j'aime beaucoup, pour plusieurs raisons, parce que c'est un grand monsieur dans sa vie également, qui a fait une très belle réussite sur le littoral méditerranéen, c'est le chéri dans la ville. Il est président, je le brocarde un peu, mais je l'aime beaucoup, tout le monde le sait, président du groupe Century 21 Lafage. Il est avec nous, il est administrateur également de la FNAIM du 06. Salut Benjamin Mondeau.
Bonjour Sylvain, merci de me recevoir.
Merci, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de recevoir des professionnels qui ont une vision et qui mènent au quotidien des combats. Parce que ce qui est génial avec toi, Benjamin, c'est que tu as toujours su rester intègre dans ton développement, même dans ta réussite. Et tous les jours, sur ton établi, tu remets ton ouvrage comme un bon compagnon du devoir. Et ça fait plaisir, un vrai plaisir. Également, un énorme plaisir de recevoir celui qui a la carrure d'un rugbyman et qui est le patron du premier réseau de mandataires français dans l'immobilier, n'en déplaise à certains. Il est avec nous. Salut Olivier Descamps.
Salut, bonjour à tous, merci.
C'est un plaisir de te recevoir également, merci d'être avec nous. Au sommaire de l'émission, on aura toujours notre séquence du vrai du faux, où nous recevrons, elle sera avec nous en duplex, Sandrine Lagnonet, de porte-parole de Vous Financer. On parlera bien sûr des taux d'intérêt. On a une émission sur l'entrepreneuriat et vous dire à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez, et d'ailleurs vous allez le recevoir puisque le journal est sorti, comme quoi ça tombe bien, avec des BAIMO, avec une première de couverture, avec le papillon le plus célèbre de l'immobilier, le nouveau papillon de l'immobilier, parce que nous avions François Gagnon précédemment qui a tracé aussi le sillon avec Wininvest, où vous nous dites mon cher Xavier, quand personne n'oserait, il faut parfois choisir le moment d'y aller. On ne pouvait pas faire mieux comme émission, surtout dans le contexte actuel. Mon cher Xavier, justement, on voit qu'on a deux années particulièrement difficiles, alors que de nombreuses agences donc, ont fermé leurs portes, que beaucoup de professionnels ont quitté le secteur. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on peut encore ouvrir des agences immobilières? Est-ce qu'on peut encore s'installer? Est-ce qu'on peut faire de l'immobilier son métier? Moi, je vous propose, mon cher Xavier, après une petite virgule sonore, un édito spécial Xavier Bellevaut.
Je pense que quand on parle d'ouvrir une agence ou de rejoindre un réseau de mandataires, avant tout on parle d'entreprendre. C'est un acte d'entrepreneuriat. C'est un moment d'être capable de se dire, bah, tout simplement, je vais prendre mes économies, je vais tenter quelque chose et ça emporte toute ma famille. Et ça, c'est une réalité. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, c'est un mot qui fait rêver certains, qui en inquiète d'autres, le mot qui évoque liberté, ambition, goût du défi. Mais entreprendre, c'est aussi accepter l'incertitude, les moments de doute, la gestion de trésorerie, hausse brutale des taux, chute des volumes de transactions, fermeture d'agences, tension sur le financement depuis 2024, évolution réglementaire permanente. Beaucoup ont parlé de crise, certains ont même annoncé la fin d'un modèle. Pourtant, après chaque crise, une question revient toujours. Qui sont ceux qui continuent d'avancer ? Car l'histoire de l'immobilier est aussi une histoire d'entrepreneurs, des femmes et des hommes qui décident de créer une agence, de reprendre une entreprise, de recruter, d'investir, de prendre des risques, quand d'autres préfèrent attendre ou procrastiner. Alors, faut-il être inconscient pour entreprendre en 2026 ? Je ne le crois pas. Je pense même que les périodes de transformation sont souvent celles qui créent les plus belles opportunités aujourd'hui. Le marché change, les attentes du client évoluent, les outils évoluent très rapidement, les modèles économiques évoluent également. L'intelligence artificielle qu'on utilise très rapidement, tout le temps, s'invite dans nos métiers depuis quelques années déjà. Les réseaux, en réalité, souhaitent se développer, mais les réseaux d'indépendance se développent encore, c'est une réalité, on en parlera. Dans ce contexte, la vraie question n'est peut-être pas de savoir s'il faut entreprendre, la vraie question est de savoir comment. en réalité. Faut-il créer son agence, reprendre une structure existante, créer de toutes pièces, rejoindre un réseau de mandataires et se développer en MLM, on en parlera pour avoir la définition avec Olivier. Comment construire une entreprise capable de traverser les cycles du marché? Autant de questions que se posent aujourd'hui de nombreux professionnels. Une chose est certaine, entreprendre dans l'immobilier n'a jamais été aussi difficile actuellement et n'a jamais été de toute façon un chemin facile. Mais c'est aussi ce qu'ils ont fait toute la richesse. Alors, à débattre entre nous.
Très bonne transition, justement. Mais écoutez, c'est parti pour le débat avec nos invités. Je rappelle les amis que nous recevons deux personnes avec Xavier, deux personnes entrepreneurs. Nous avons avec nous Olivier Descamps, le président d'IAD, et également Benjamin Mondou, le patron du groupe Century 21 Lafage, où vous êtes l'un des leaders du littoral méditerranéen. Là, on peut dire, Benjamin, c'est vrai que quand on voit vos chiffres, si je peux me permettre, on se dit, Benjamin Mondou connaît pas la crise, quoi.
Ça va. Alors, plus
moi, j'ai envie de vous demander, je sais pas, est-ce qu'il y a une martingale Mondou? Est-ce qu'il y a une recette? Est-ce qu'il y a une potion magique que boivent tous les négociateurs tous les matins, etc.? Est-ce que le fait que vous soyez un sportif de haut niveau, ça vous aide? Non, mais franchement, j'ai envie de comprendre. Ou est-ce que vous êtes porté naturellement sur un marché où tout le monde, dès lors qu'il ferait des glaces, prendrait des glaces parce qu'il fait chaud? Vous voyez ce que je veux dire?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, mes agences tournent plutôt bien. On va, cette année, atteindre les 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur mes 12 agences.
Vous avez 12 agences, 12 agences. Et vous en ouvrez deux de plus.
Je vais en ouvrir deux de plus, une en 2026 et une autre en 2027. Donc je passerai à 14 agences début 2027. Ce qui fait la recherche et la force d'une entreprise, c'est l'humain. Moi, je crois beaucoup en l'humain. Et donc, ce sont mes 100 collaborateurs qui font aujourd'hui ces 8 millions de chiffre d'affaires. Donc voilà. Donc,
100 collaborateurs.
100 collaborateurs, ouais. 100 salariés.
Sans salariés. C'est important, salariés. Ce que vous venez de dire est important, on y reviendra justement.
Je n'ai que les salariés et mon modèle sur mes prochaines ouvertures d'agence, c'est d'associer mes collaborateurs. Voilà, mon développement va se faire.
Donc vous souhaitez partager la richesse.
Exactement.
Que vous créez.
Des gens qui sont là depuis 15 ans, 20 ans avec moi, je considère qu'aujourd'hui, c'est à moi de les accompagner, à moi de transmettre. Et donc je vais ouvrir deux nouveaux points de vente. J'en ai ouvert déjà deux en 2025 et 2026 avec comme associés des collaborateurs, et ça va être mon modèle sur les 5 ans qui arrivent.
On est tous d'accord de dire, je me permets de faire ça en introduction, que le capital humain, on y croit tous, hein, Xavier, Olivier, c'est le sang qui coule dans nos veines, je veux dire 96%, peut-être pas 96%, mais au moins 80% du modèle ou du compte d'exploitation, et tout le monde le dit, c'est de l'humain.
Exactement.
On est sur ce qu'on appelle de l'économie de main-d'œuvre, si je devais être un peu économiste. Mais pourquoi ça marche pour vous?
Pourquoi? Parce que justement, j'ai su conserver mes collaborateurs.
C'est-à-dire que vous maîtrisez le taux de turnover, les gens restent
j'en ai
chez...
J'en ai pas. Clairement, j'en ai pas. Vous appelez Century 21 France, ils vous diront que j'en ai pas. Les gens sont là depuis le départ avec moi. Et quand j'ouvre un point de vente, bien sûr, je recrute. C'est souvent de la cooptation, donc des gens qui parlent de l'entreprise et qui viennent avec nous. Mais je fais beaucoup de choses avec mes collaborateurs, et vous le savez.
Est-ce que ça veut dire que vous avez... Pardonnez-moi. Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas de problème de recrutement?
Aucun. Vous ne me verrez jamais passer une annonce sur les réseaux sociaux comme quoi je cherche des collaborateurs. Non. Jamais. Et donc, je ne fais aucune opération avec le groupe Century 21 France.
Mais c'est quoi? C'est la méthode de management? C'est...
Encore une fois, ce que je souhaite, c'est que les salariés se sentent bien dans l'entreprise.
Est-ce que votre secteur vous porte?
Bien sûr que j'ai un territoire qui est formidable. Mais au-delà de ça, encore une fois, je fais en sorte que mes équipes restent avec nous. Et pour ça, je fais plein de choses avec eux. Je fais du sport avec eux, je les amène au théâtre. On a fait le marathon New York, on a fait le marathon de Paris, on fait plein de choses tous ensemble. Tous les jours, j'ai des cours de sport dans chacune de mes agences. Donc voilà, je fais en sorte que le bien-être soit au cœur de mon métier.
Olivier Descamps, je vous voyez écouter avec beaucoup d'attention ce que disait Benjamin. Et toi aussi, en tant que président d'IAD, on peut le dire, hein, c'est une success story hallucinante. Ça a démarré dans... Alors, il y a toujours le narratif, hein. Ça a démarré dans un garage avec deux fondateurs, j'étais deux, puis trois, puis quatre, et puis aujourd'hui, il y a 16 000 opérateurs. Une chose que je voudrais comprendre, c'est qui encore aujourd'hui pourrait avoir intérêt à entreprendre dans l'immobilier, puisque aujourd'hui, quand on parle IAD, tu en parles d'ailleurs, et tous tes collaborateurs parlent d'une comité d'entrepreneurs, hein. Je reprends les termes. Donc, on ne parle pas de salariés, on ne parle pas de collaborateurs, une communauté d'entrepreneurs, une espèce espèce d'agora fédérant l'esprit d'entreprise un peu partout dans les territoires. Comment on peut expliquer le succès ? Au-delà même, par exemple, de fonds d'investissement qui donneraient les moyens d'y arriver, au-delà même des outils techniques, technologiques, qu'est-ce qui porte le succès d'un réseau ? On essaie de comprendre le succès de Benjamin. Moi, je me dis, voilà, qui aujourd'hui pourrait entreprendre dans l'immobilier ? C'est quoi la recette pour bien l'accompagner ?
Par rapport à ce que vient de dire Benjamin, il y a des choses qui nous différencient dans le modèle, évidemment, mais qui nous rapprochent dans l'animation des entrepreneurs. D'abord, nous, IAD, on avons...
Modèle, mais c'est le même métier.
Même métier.
Oui, on loge les gens, on leur vend de l'immobilier.
Aujourd'hui, le métier d'immobilier, on le fait tous, mais on a choisi un modèle entrepreneurial différent.
D'accord.
Tantôt en franchise, tantôt avec des salariés, tantôt en indépendant avec sa carte T, tantôt dans un modèle de mandataire. Donc ça, le métier est le même.
Okay. Ou la carte T n'est pas nécessaire.
Ou la carte T est nécessaire pour l'agent, moi, qui la délègue.
Non, mais c'est vous qui portez, en fait, l'insumé.
Mais comme elle n'est pas nécessaire pour les salariés qui sont dans une agence physique.
Hein, d'accord.
Les modèles sont assez proches.
Ce qui ne signifie pas qu'on travaille en mode dégradé dans l'immobilier quand on est chez IAD.
Ni chez Benjamin, c'est-à-dire que salariés n'ont pas de carte non plus. Néanmoins, ils ont une délégation qui peuvent être faites et on fait le même métier. Donc aujourd'hui, je pense que quel que soit l'entrepreneur, souvent on fait des mondes, enfin on essaye de mettre des mondes ou des ravins, des espaces de dingue entre les modèles de mandataires, les franchisés et les salariés. À la fin, tout le monde fait le même métier et chaque vrai entrepreneur, chaque vrai patron d'affaires a à cœur que ses salariés, ces entrepreneurs, ces agents co, soient le mieux formés pour délivrer la meilleure des prestations à leurs clients, vendeurs, acquéreurs, investisseurs ou locataires.
Qu'est-ce qui fait le
Qu'est-ce qui fait la différence ? La différence, elle est majeure. C'est que nous, on n'a pas de salariés, on n'a que des entrepreneurs.
Ouais.
Donc déjà, nous, on a un modèle très clair, c'est que chacun est entrepreneur depuis le premier jour et aucun salarié pour être au service des vendeurs et des acquéreurs. Ça, c'est le point majeur. Deuxième élément.
C'est pratique en matière de trésorerie, je veux dire.
Je sais pas.
Non, mais je veux dire,
je sais pas.
On est tous.
Moi, je te confirme.
Vous aussi, vous êtes entrepreneur.
C'est pratique, hein, je sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, c'est un succès. C'est un succès. C'est-à-dire
que c'est partagé. Il n'y a rien de négatif dans ce que je dis. Je dis qu'aujourd'hui, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre.
Bien sûr.
Ça se surveille comme le lait sur le feu. Et on est plutôt tous bien placés pour le savoir. Et je trouve que trouver un modèle dans lequel vous n'avez pas ce poids de l'économie, de la charge salariale, car le problème, c'est que quand vous avez des salaires à payer tous les mois, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse chaud, ce sera le même tarot pour payer les salaires.
C'est,
le truc.
C'est d'ailleurs pour ça que la FNAIM déclare avoir 57% de son personnel, de ses équipes, en agent co. Hein, donc on n'a pas inventé. Même les adhérents
de la FNAIM sont majoritairement... excuse-moi Olivier, je me permets, parce que je tutoie tout le monde, mais donc on se tutoie, tu es très moderne en ce moment. Tu as raison Olivier, de soulever ce point qui a déjà été purgé, mais pour être très clair avec ceux qui nous écoutent, les premiers mandataires de France, c'était les agents immobiliers qui avaient des négociateurs en agent co. Donc ce débat qui consiste à dire oui, on paye pour travailler, etc., comme certaines personnes, feu d'ailleurs, quelqu'un qu'on connaît bien, disait la même chose, moi j'ai toujours été contre, et je trouve que ton modèle, s'il avait été mauvais, s'il avait été brinque-ballant, il se serait déjà effondré. Et donc la démonstration de la réussite en part de marché, quand je vois ta part de marché, elle ferait envie à tout le monde. Oui. On est d'accord là-dessus ?
Bien sûr, et donc c'est pour ça que le modèle, il n'est même plus à discuter, et au-delà même d'IAD.
Il n'y a plus d'ailleurs aujourd'hui, fini.
Quand le modèle de mandataire fait 28% de part de marché au sens large, nous on en fait 7 rien que nous, et ça ne se discute même plus, sauf ceux qui ont du temps à perdre.
Mais... IAD c'est quoi ? C'est 56 000 ventes, hein, je crois.
Ah non, IAD c'est cette année 66 000 transactions.
66 000 ventes.
Et 70 000 compromis signés. Donc ça, c'est ce qu'on a fait cette année. Et donc aujourd'hui, c'est le record. Hein, le record IAD, mais le record France, on va dire, hein, puisque personne n'a jamais réalisé ça, quel que soit le réseau. Mais pour revenir aux clés de succès, la clé de succès, elle est assez simple, c'est nous, on a voulu, dès le départ, que chacun soit entrepreneur. D'accord ? Entrepreneur. Mais en même temps, on leur a permis, on le verra peut-être tout à l'heure, on a permis eux-mêmes de pouvoir se développer. C'est-à-dire qu'on n'a pas juste des conseillers, on leur a également permis, après formation et accompagnement, de pouvoir développer une équipe et eux-mêmes faire exactement ce que fait Benjamin, de pouvoir être à la tête d'une équipe, dans un modèle différent, tête d'une équipe en termes d'animation, c'est-à-dire que ce que j'entends là, hein, c'est j'anime, je passe du temps, je fais en sorte que mon équipe se passe bien, tout se passe bien pour l'équipe, pardon, ça on le conserve. Donc finalement, la clé, c'est d'avoir pu donner à chacun l'opportunité d'avoir une équipe d'entrepreneurs, elle-même constituée d'indépendants, que je dois animer. Parce que je vais te donner la réponse.
Le plus gros, il a combien de...
1900. Dans les 8 pays. Et évidemment, comme dans une agence. Je sais pas, j'imagine que Benjamin, il est pas, il a pas les 8 agences ou les 12 agences en direct, hein, il a des relais.
J'ai des directeurs, bien sûr.
Directeurs. Donc nous, ils ont des managers dans leur équipe, qui eux-mêmes ont des équipes et qui sont, font le même travail qu'une direction commerciale classique. Voilà. Mais en fait, ce qui se passe là, c'est qu'en fait, quand tu dis qu'est-ce qu'est la clé de succès, parce que d'autres ont essayé de faire la même chose, hein, la première, c'est qu'on
mais
est...
Mais oui, c'est attends, ça.
Attends, juste pour terminer le propos là-dessus, hein, qu'est-ce qui fait la clé de succès? C'est l'ADN, c'est le cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un, la culture. La culture d'IAD, elle est tournée vers le partage de la valeur, le partage de la richesse, qui n'est pas détenue que par nous, pas détenue que par un franchisé, que pas détenue par un salarié qui n'existe pas chez nous, elle est détenue par tous ceux qui décident de développer leur équipe. Donc ça, c'est majeur, parce que quand tu discutes, nous, quand on discute avec l'un de nos 16 000 conseillers, et a fortiori avec ceux qui ont des équipes, on discute d'égal à égal, ils ont les mêmes sujets que nous, ils ont les mêmes discussions que nous, ils ont les mêmes contraintes que nous entrepreneuriales, et donc je pense que ça a fédéré, une communauté d'entrepreneurs où entre la tête de réseau et chacun des entrepreneurs, le discours est le même, puisqu'on vit la même chose. Les mêmes contraintes s'appliquent à eux, comme à nous, au quotidien. Donc ça, je pense que cette clé-là de dire on vit au quotidien avec des entrepreneurs, avec les mêmes ADN, c'est
ça
majeur.
C'est ça qui est différenciant, Olivier, par rapport aux autres par rapport à Safety, par rapport à Digiterre, Optimum, Capi France.
Et je rajoutais donc un troisième point pour être différent d'eux, c'est que nous, on est natifs. C'est-à-dire qu'on a démarré comme ça. Dès le premier jour, Malik, Jérôme et Sébastien ont dit, dès le premier jour, vous pourrez développer votre équipe. Et ensuite, certains qui ont démarré avant nous, nous ont copié. Et donc, c'est toujours difficile d'ajouter à ta recette, à la potion magique que Benjamin il a pour ses agences, d'ajouter un ingrédient supplémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, t'embarques dans la création d'entreprise, t'embarques sur un modèle des entrepreneurs, des collaborateurs, puis au bout de quelques années, tu dis, bah tiens, en fait, on va rajouter ça. Et là, tu viens casser. Nous, la chance qu'on a eue, et c'est pas moi, hein, la chance qu'on a tous eue, nous qui animons les équipes, c'est que nos cofondateurs, depuis le départ, ont voulu ce modèle qu'on n'a pas changé. Mmh. Tu sais, très souvent, on dit, qu'est-ce qu'il faut changer chez nous? Il y a plein de choses à faire évoluer. L'IA qui arrive, la législation, bien sûr, on fait bouger. Mais surtout, on est très, très vigilant à garder cet ADN de départ en disant, vous êtes tous entrepreneurs et on vous permet de développer vos équipes.
Question, il n'a échappé à personne que les marchés de l'immobilier sont compliqués en ce moment. Bien que les chiffres, statistiquement, sur le volume les volumes de vente, il y a un peu de nuance. C'est pas égal dans tous les territoires. Mais grosso modo, sur la part intermédiaire, quand je dis que quand vous faites 5% de marché, il faut la corriger sur la part intermédiaire, sur les 900 000 transactions globalement.
Bon, en intermédiaire, on fait 10%. On fait 10%.
Donc, ce qui représente plutôt 10%, ce qui est énorme. Je veux dire, aujourd'hui, vous êtes champion de toute catégorie.
Et si je peux ajouter un point quand même, quand on parle du volume, hein, on a eu 2 mois de régression, si vous arrivez à les chiffres. Oui. Le mois de mai est en progression. Hein. Oui. C'est-à-dire que le cumul de transactions réalisées sur les 12 derniers mois.
Pour y aller.
Pour le marché au total.
Mais selon les réseaux.
Oui, d'accord. Mais aujourd'hui,
justement, en mois de mai.
Attention, moi, je suis très prudent avec ça. Attention à ne pas passer des informations auprès de ceux qui nous écoutent qui ne seraient pas les bonnes. Je peux être en difficulté. Mon réseau peut être en difficulté. Mon agence en difficulté. Le marché, sur les 12 derniers mois, a régressé sur mars et avril. Oui. Au mois de mai, le marché est reparti à la hausse.
Okay.
Donc aujourd'hui, on n'est pas dans ce que je peux lire parfois dans un marché. Alors le marché n'est pas euphorique. Mmh. Ça serait mentir de dire ça.
Non, mais
il a remonté.
Non, il n'est pas plombé.
Alors,
moi, si je puis me permettre, Sylvain.
Est-ce que tu me permets de faire juste une vas-y. Pour présenter, pour te dire. Xavier Bellevaux, c'est 1 an et demi à la tête du réseau, presque 2 ans, et il rachète sa propre entreprise. Donc il devient entrepreneur. Il aurait pu se contenter des DG. Il a dirigé la plus grosse centrale coopérative de France. C'est le réseau Orpi. Au lieu d'être dans le confort d'une franchise qui s'appelait WeInvest, qui est née en Belgique, il a racheté cette franchise en y mettant toutes ses économies, etc. Si je peux me permettre.
Oui, faites mon avocat.
Ce que je peux vous dire. Non, mais je voudrais juste voir les chiffres, parce que c'est important de comparer. En 1 an et demi, avec WeInvest, vous avez ouvert 65 agences immobilières.
Oui.
Il y en a 57 d'ouvertes et les restes seront en cours d'ouverture.
Oui, d'accord. Le plus gros fait 4,5 millions hors taxes aujourd'hui. Sur 6
vous avez 500 mandataires. Vous avez racheté un groupe qui s'appelle BL Agent. Vous avez fait quelques bonnes absorptions et vous l'avez fait intégralement puisque vous n'avez pas été refinancé derrière, puisqu'il n'y a pas de fonds. Il n'y a pas de fonds actuels dans votre réseau, je ne me trompe pas.
Non.
Et vous serez sur un volume de 10 millions d'euros. Est-ce que c'est juste jusque-là?
Oui, on fera 10 millions
alors,
hors taxes.
Alors, année. Avant que tu continues justement, tu commentes, moi je voudrais que tu expliques à ceux qui nous écoutent dans la même question que j'ai posée à Benjamin. Pourquoi, quand on s'appelle Xavier Bellevaux, alors je ne sais pas, peut-être que tu as des capacités hors normes, peut-être qu'il y a une méthode. C'est quoi la méthode? Je voudrais que tu racontes à nos amis comment tu as pu arriver à ces chiffres-là en 1 an et demi. Je sais ce que je veux comprendre, ce que je voudrais comprendre en reportant.
Je pense que tout bêtement, dans mon cas, moi, c'est un pide. C'est la répétition. Il n'y a pas d'autre chose comme un grand sportif. J'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait des barrières professionnellement. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, je viens de rien. J'ai vécu dans la rue. Donc, quand on travaille, je me dis que ça paye. Et ça a toujours été, je touche du bois, ça a toujours été le cas et j'espère que ça le sera toujours. Objectivement, moi, j'ai fait un constat. Les réseaux de mandataires, peu ou prou, c'est toi qui as la date exacte. C'est plus ton ADN. C'était à peu près 2002, les premiers. Moi, j'étais dans les réseaux immobiliers traditionnels. On nous disait, c'était un peu Uber taxi, Uber contre la taxi G7. On nous disait, ça ne marchera jamais, c'est n'importe quoi.
On a connu ça, ouais.
Et un jour, les réseaux de mandataires, 10 ans plus tard, se sont installés, ont pris place et aujourd'hui ne disparaîtront pas. Je n'y crois absolument pas. Ils font partie pleinement du marché. Moi, je suis parti d'un constat. C'est quand je suis arrivé dans le modèle économique auquel j'étais en Belgique, tout le monde, même pour être conseiller, avait la carte T. C'était une obligation légale. Il n'y avait pas de mandataire immobilier.
D'IPI.
Exactement.
L'Institut des professions immobilières, voilà. qui est un ordre réglementé.
Et là, je me suis posé et je me suis dit, mais les gars, si vous voulez qu'on développe pas ça en France, ça ne va pas fonctionner. Donc je suis parti d'un modèle simple, je me suis dit que le vrai problème que j'avais pu regarder dans ma carrière, c'était quand on avait quelqu'un qui venait nous voir, on avait des conditions qui étaient très fermes à chaque fois. C'est un contrat de 5 ans, c'est tant de royalties, et en réalité que tu fasses 200 000 de chiffres ou que tu en fasses 1 million, c'est la même chose. Je peux au prou, hein.
C'est ça.
Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Voilà. Et moi, je suis parti d'un constat, je me dis, il y a un problème. Un mec qui est agent ou conseiller en agence qui veut se lancer, peut-être que dans 3-4 ans, il fera 450 hors taxes ou 500. Mais si à un moment, on l'accompagne pas avec une base forfait, un taux réduit sur la partie portail, etc., il n'y arrivera pas. C'était le premier constat. Donc, j'ai créé des modèles économiques qui correspondaient, en fait, à chaque tranche, avec une régression après 1 million hors taxes de chiffres. Le deuxième sujet était de me dire, distorsion qu'on pouvait avoir entre les agents immobiliers vitrés et les agents immobiliers, enfin les conseillers immobiliers en MLM, ce n'était absolument pas cohérent. Je me suis dit, je vais les faire travailler ensemble en fichier commun et je ne vais prendre dans la structure, en tout cas en licence de marque ou en franchise, que des dirigeants de l'agence qui partagent cet ADN. Sinon, ça n'a pas de sens.
C'est quoi
réalité.
Un MLM ?
Marketing de réseau, en l'occurrence. C'est un peu différent du marketing financier ou autre. Et ça, Olivier en parlera bien mieux que moi. J'ai commencé en 2024, septembre, les taux étaient à 4,50. J'entendais partout dire que ça ne fonctionnerait pas, il n'y avait plus de place pour un nouveau réseau. Bon, ça ne veut pas dire que demain, dans 3 ans, je serai toujours existant. Peut-être que dans 10 ans, je serai encore là. Peu importe, je le souhaite, en tout cas. Voilà, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Par contre, sur les agences immobilières, quand on parle d'agences immobilières ou de MLM, je pense que le vrai sujet, c'est pas forcément le taux de rémunération ou autre, c'est la marge brute. Demain, tu peux avoir que des salariés, mais j'imagine que t'es pluridisciplinaire. Tu ne fais pas que de la transaction. Tu fais de la gestion, tu fais du syndic. On est d'accord, parce que celui aujourd'hui qui ne fait, en tout cas une agence qui ne fait que de la transaction, par exemple chez Winvest, je fais tout pour qu'il absorbe dans la nourrice en gestion et pour que pour la suite, il soit en capacité d'absorber une crise.
C'est essentiel. Voilà. C'est
essentiel. Et en MLM, on réalise pas parce que tu n'as pas de salariés, tes coûts sont beaucoup plus hauts, etc. Par contre, ce qui est vrai sur ce que dit Olivier, c'est que maintenant, moi, j'ai des premiers de lignée qui n'ont pas forcément du tout les mêmes critères, n'ont pas 1900. Il y en a un qu'on a 200, l'autre qu'on a 150. Et après, c'est des plus petits. Par contre, j'ai découvert qu'il y a un vrai accompagnement. Il y a une vraie communauté, c'est des vrais chefs d'entreprise qui sont là, qui les accompagnent, qui les lead, qui leur font des séminaires, qui au quotidien se mettent vraiment, se plient pour la plupart en tout cas vraiment en quatre pour essayer de les faire accompagner, pour les faire grandir. Et ce que j'ai trouvé bien, vous le disiez tout à l'heure tous les deux, c'est l'humain. Et en réalité, on est personne. Quand on rejoint une banque, on rejoint pas une enseigne. On rejoint le fit qu'on a pu avoir avec Benjamin, avec Olivier ou les collaborateurs, ou tout simplement les lignées. Et je pense que l'avenir, il est plutôt là. On doit être beaucoup plus sur ces éléments.
On parle beaucoup d'érosion. Alors, moi, je veux bien que chez toi, Benjamin, il n'y a pas de souci d'érosion, qu'il n'y a pas de... etc. Mais les chiffres sont sans appel. Il y a que ça quitte l'immobilier. Je vous le dis, les statistiques sont claires. D'ailleurs, dans mes différentes fonctions, on crée un énorme institut au siège de Nexity, là... qui va être lancé au salon immobilier bas carbone, parce qu'il y a un vrai sujet hémorragique, je pèse mes mots, hémorragique dans les métiers de la transaction, puisqu'il y a une telle inégalité dans la vente dans les territoires que parfois... c'est super que tu le vives pas.
Non, mais je fais toujours attention, parce qu'il y a souvent des pros qui nous écoutent, et moi, j'aime jamais trop ces discours alarmistes. Il faut être objectif, vigilant, mais jamais alarmiste. Aujourd'hui,
c'est pas le sens de mon propos.
Non, mais je le complète alors.
Oui, oui.
Juste dire qu'aujourd'hui, que des personnes qui travaillent dans le neuf, par exemple, où il n'y a plus aucun soutien, où il n'y a plus aucune action, rejoignent, restent dans la transaction. Mais voyons, nous aujourd'hui, chez nous, c'est 1500 entrepreneurs de plus en un an.
Alors justement, 1500 de plus. Donc c'était ma question. Donc il n'y a pas d'érosion dans le réseau IAD.
Non, mais dont certains viennent.
Non, mais c'est ça,
je dirais presque malheureusement du neuf.
Il y a combien de gens qui repartent de chez toi?
C'est... Mais aujourd'hui, non, je parle d'honnête, là.
Non, mais combien de gens qui rentrent et qui repartent?
Bah, exactement comme à l'infini, 30%.
Okay.
Non, 30% de turnover.
Mais c'est énorme.
Mais c'est pas ça que je dis.
Ce que non, mais c'est énorme.
C'est pas ça que je dis. Mon propos, c'est
énorme
ça.
Quand même. 30%.
Mon propos,
30% mais Benjamin, sur du volume.
C'est d'accord, mais 30%, c'est énorme. C'est beaucoup, beaucoup de gens qui viennent et qui repartent.
Non, mais c'est un meilleur taux que tous les réseaux que tu connais.
Non, mais bientôt. D'accord, mais, c'est, non, mais je rejoins Sylvain.
Olivier, c'est pas une
problématique. Je vais terminer mon propos. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui.
Olivier,
aujourd'hui,
on se parle vrai. Vous avez d'excellents résultats et tu es numéro 1.
Je pas nous.
Mais 30%, tu peux comprendre que dans la vision d'un Benjamin Mondou.
Que je ne veux pas laisser dire. Non, mais je vais terminer mon propos parce que c'est. Ce que je veux dire là très clairement, c'est qu'aujourd'hui, laisser croire que les gens fuient l'immobilier, c'est faux.
Je suis d'accord avec ça,
c'est
pas
vrai. C'est complètement faux. Qu'il y ait des verticales qui souffrent. Qu'il y ait des verticales qui souffrent comme le neuf, comme tu viens de dire.
Il y en a qui fuient l'immobilier, excuse-moi, dans certains types de métiers de l'immobilier.
Donc je termine mon propos sur le neuf. Parce que si c'est un débat, il faut qu'on puisse bien s'entendre, pour bien répondre. Que des gens suivent. Et malheureusement, on est les premiers à le regretter. Nous aussi, on fait du neuf. Et aujourd'hui, le neuf, nous, c'est peau de chagrin, malheureusement. Donc il y a aussi des pros du neuf qui viennent sous pour faire la transition. Aujourd'hui, il y a 1000, je parle en net, il y a 1000. Presque 1500 entrepreneurs de plus dans le réseau, 14 350 pour être précis, quasiment 16 000 un an après. Donc en net, peu importe entrée-sortie, on pourra en parler très tranquillement tout à l'heure, parce qu'on est très à l'aise et presque très fiers de notre taux de départ qui est le meilleur de tout le marché.
Mais aujourd'hui,
ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a des pans de l'immobilier qui sont en train de mourir. C'est ça le vrai sujet.
C'est ça que je dis.
De métier de mouvement. Après, et donc juste... on voit un transfert. Mais aujourd'hui, non. Les transactions
si
dans l'ancien.
Si tu me permets de modérer mon propos, je dis il y a une fuite hémorragique et il y a également une hémorragie de ressources. Je m'explique. Les métiers de l'exploitation et les métiers de la gestion sont très chroniquement en tension. C'est-à-dire qu'on a besoin de monde. Et on estimait même que s'il y avait 55 000 conseillers en gestion immobilière ou en syndic de copropriété, on serait capable de les absorber.
Exactement.
Ce que je dis, c'est que dans mon constat, il y a une hémorragie à la fois sur des pans du marché, et tu as raison, il faut le dire, sur l'aménagement du territoire, sur le foncier, sur le neuf, qui est quand même
un
sujet très, très important, mais sur le marché traditionnel de la transaction... Force de constater qu'il n'y a pas.
Alors, voilà, on arrive. Il y a deux sujets. Moi, je pense qu'il faut être transparent. Moi, je donne juste une analyse qui est la mienne à mon niveau. La première chose que je remarque, c'est qu'effectivement, on a perdu un peu plus de 1000 cartes pro sur ces trois dernières années, à peu près 5000 mandataires.
C'est
donc, on a eu une érosion. Mais l'érosion, c'est là où c'est problématique. Il faut la requalifier correctement. Dans cette érosion, tu as 65% des gens qui ne faisaient que de la transaction dans l'ancien, qui n'avaient pas de collaborateurs et qui ont absorbé des coûts de portail qui sont toujours beaucoup plus forts et qui n'avaient plus cette capacité à être assez attractifs parce qu'il y a encore des gens qui font de l'immobilier comme il y a 20 ans en arrière. Ça ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, un collaborateur, si tu ne le fidélises pas, si tu ne lui fais pas comprendre qu'il est important, ça ne fonctionne plus comme il y a 20-30 ans.
Et heureusement.
Ça, je suis complètement aligné par rapport. Le deuxième sujet, c'est qu'on a eu des touristes. C'est qu'on avait des gens qui avaient 5-6 métiers, qui arrivaient chez AD et d'autres, hein, et qui pensaient que tout simplement, en 2018-2019, ils rentraient un mandat, le téléphone sonnait dans tous les sens.
Je suis boulanger, je suis.
C'est pas ça, c'est que la crise est passée par là, on a dû apprendre à regérer un stock.
C'est la profession qui a fait croire également qu'on pouvait facilement réussir dans ce métier, etc. Et c'est le problème des agents co. C'est-à-dire que malheureusement, on sait qu'il y a un temps long. C'est-à-dire que pour réussir dans ce métier, il faut 3 mois, 6 mois.
Moi, je dis qu'il faut toujours 6 mois.
Ah. Un an.
Ah, okay. Non, mais il faut 6 mois pour
tout
arriver.
Tout dépend des modèles.
Bien accompagné.
Même pour le premier.
Très bien. Donc, il ne faut pas mentir aux gens. Et moi, quand j'ouvre un nouveau point de vente et que je recrute, je leur dis, les gars, ça va être long. Il va falloir beaucoup travailler et il faut avoir des économies. Parce que ça coûte cher d'être agent immobilier. On est la seule profession où on travaille et à la fin du mois, on peut ne rien avoir gagné.
Benjamin, je suis d'accord avec toi, mais je te donne une stat. Parce que quand on oppose, elle ne vaut que la mienne, parce que c'est mes chiffres, pour le coup. Mais elle est assez probante, et je ne m'y attendais pas. On dit toujours que les mandataires immobiliers travaillent moins qu'un conseiller immobilier en transaction.
Ça, je ne dis pas ça.
Moi, j'ai les deux. J'ai maintenant des conseillers autres. Et tu sais, quelle était ma métrique? Le taux d'exclusivité. Eh ben, c'est surprenant. J'ai 42% de taux d'exclusivité sur mes agences. J'ai 40% de taux d'exclusivité sur la partie mandataire. D'après le CRM métier, donc c'est pas inventé.
Non, mais
et pour te conforter dans les chiffres, nous c'est 46% d'exclus.
Et moi c'est 60%.
Oui, mais vous avez combien d'années? J'ai un an et demi.
Non mais peu importe, mais tu prends des pros.
Ah oui, je suis d'accord avec toi.
Moi je t'ai rendu pro, donc tu vois.
Ah oui, bah c'est cohérent. Oui, on est cohérent. Et un des grands réseaux aujourd'hui immobiliers, on est entre 48 et 54.
Alors je voudrais qu'on avance dans les sujets justement.
Mais parce que t'as tout ce qui va autour. Il y a le décorum, tu sais que tu fais partie des gens dans l'immobilier qui sont rares aujourd'hui. 100% de salariés.
Ça, c'est clair.
Mise en place de salles de sport, davantage d'accompagnement, etc. Aujourd'hui, encore une fois, j'aimerais que tous les dirigeants d'agence fassent ça.
Alors, Xavier, si tu permets, merci de m'avoir fait cette transition, parce que c'est un sujet important. C'est le sujet de la rémunération et de la prise de risque. Je voudrais mettre en parallèle, si vous êtes d'accord, messieurs, deux choses. La prise de risque pour un entrepreneur, mais également la reconnaissance, la gratification, la gratitude ou l'envie des entrepreneurs qui rejoignent également d'autres entrepreneurs, puisque je sais que toi, Benjamin, dans ton modèle, tu es presque, je crois même te l'avoir déjà dit, tu es quasiment presque une entreprise à mission, j'allais dire presque dans ce sens-là, parce que le sens que tu mets dans tout cela, même d'un point de vue technique, elle est compatible avec un esprit contemporain. Je parle d'une jeunesse aujourd'hui qui se cherche et qui cherche une identité. Alors moi, j'ai envie de poser la question aujourd'hui. C'est pas un discours alarmiste, excuse-moi, hein, mais en octobre 2025, il y a eu 66 000 dépôts de bilan. Sur les 66 000 dépôts de bilan, la première cause de mortalité, c'est l'immobilier et la construction. C'est la première fois que ça arrive, parce qu'en général, c'était la restauration, qui arrive en troisième position. Et effectivement, je corrobore tout à fait les chiffres, puisqu'on peut traquer les chiffres d'inscription des cartes professionnelles dans les chambres de commerce. Il y a une baisse graduelle. Alors, est-ce qu'elle est alarmante ou pas? Moi, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il y a une correction naturelle.
Il fallait qu'il y ait un écrémage du marché. Je veux dire.
Moi, la question que je vous pose, c'est cette question. Chez Benjamin Mondou, tout le monde est salarié. 100%. Pourquoi 100%. Tu as choisi ce modèle alors que, vu la position de dominance que tu as sur le marché littoral, je le sais, puisque j'ai été dans tes agences et je connais bien ton secteur, tu pourrais avoir les deux tiers de tes producteurs en négociation immobilière là-dessus et tu leur assures tous un revenu. Moi, je veux comprendre pourquoi et qu'on ait ce débat ouvert.
Mais tu sais, c'est assez simple, mais on va revenir quelques années en arrière. Le Covid, ils ont été payés. Ils ont été payés à 70% par l'État, 30% par mon entreprise. Ils ont eu 100% de leur salaire. Et pour moi, ça, c'est important. C'est-à-dire que quand je fais une visio avec eux, juste après le lockdown déclaré par Emmanuel Macron, on est tous en visio, ils me disent « Benjamin, est-ce que tu veux nous payer à 100% ?» Et je prends l'engagement de les payer à 100%. Je ne sais pas si ça va durer une semaine, un mois, deux mois, six mois, etc.
C'est fou.
Et donc, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, il faut avoir une grosse trésorerie. Moi, je suis un écureuil, c'est-à-dire que quand je gagne 10, j'en mets de côté.
Absolument. Ah. Mais cette prise de risque, je voudrais qu'on mette en parallèle la prise de risque. C'est un entrepreneur, et on va en parler surtout aussi avec Xavier, qui a, il n'a pas 25 ans pour devenir entrepreneur, il a plus de 40 ans, et il a mis tout ce qu'il a sur le tapis. C'est remarquable.
C'est juste qu'à un moment, tu y crois.
Non, mais c'est remarquable. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on prend cette prise de risque, on fait cet engagement-là, et qu'à un moment donné, on se dit, tous les salariés qui rejoindront mon groupe, je vais les salarier, et quelque part, je vais également les associer. Parce qu'on parle d'humain, mais on parle aussi de méthode de management.
Oui, bien sûr. Moi, je veux être un acteur engagé de la cité. Donc, moi, contrairement à IAD, j'aime avoir des agences vitrées, et donc être dans mon territoire, faire des événements, créer des choses, animer mes équipes, etc. Et je considère que mon modèle, qui est très atypique dans ce métier-là, aujourd'hui, il fonctionne très bien et ça fait 25 ans qu'il fonctionne très bien.
Mais tu as quand même choisi de payer une franchise.
Bien sûr.
Parce que il y a un panneau quand même chez Mondou.
Oui, bien sûr.
Il y a Century 21.
Bien sûr,
c'est un choix, ça.
Il y a une belle marque, oui. Bien sûr que c'est un choix.
Ça aurait pu s'appeler Mondou et associé, Mondou Littoral.
Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une belle marque, il faut être accompagné, il faut avoir des formations juridiques, commerciales, etc. Donc c'est essentiel, essentiel. Voilà, donc, et puis j'aime cette marque profondément. Quoi. Voilà, donc j'aime mon réseau. Donc pas question pour moi d'aller ailleurs. Mais voilà, mon modèle, il est surtout sur de l'humain.
Est-ce que je peux résumer dans ce que tu dis quelque chose qui est presque affectif, attachant? C'est que c'est l'envie d'avoir envie, c'est-à-dire des collaborateurs qui sont tellement attachés à l'entreprise que ça devient, entre guillemets, irrationnel. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un attachement réel, affectif, dans une continuité qui fait que ça se traduit par zéro turnover et un résultat qui se consolide chaque année avec... En précisant exactement ce qu'a dit Xavier tout à l'heure, la culture plurimétier, c'est-à-dire gestion syndic ou etc.
On fait tous les métiers, des commerces, du viager, de la nue propriété, du syndic, de la gestion, du neuf, tous les métiers. Okay. Tous les métiers. Mais je te prends un exemple très concret. Oui. Je me suis associé il y a deux ans avec un de mes collaborateurs, 15 ans avec moi. On a ouvert une agence ensemble au Boulevard de Cimiez. Aujourd'hui, c'est une agence qui fait 750 000 euros hors taxes de chiffre d'affaires. Donc, c'est une agence qui fonctionne très, très bien. Très, très bien. Donc, voilà. Et c'est un garçon qui gère son agence, qui a 49% des parts, qui gère formidablement bien son agence.
Ah oui, 49% quand même.
Quand j'associe, j'associe réellement. Je leur donne pas 5% des parts.
C'est pas neutre.
Mon modèle, il est là dans les 5 ans à venir. C'est que je veux monter encore une dizaine d'agences.
Merci pour ce débat, parce que ce qui est très intéressant, c'est de confronter les modèles, mais finalement, c'est le même résultat. C'est-à-dire qu'on arrive à des performances extraordinaires. Un commentaire, Olivier Descamps. Et justement, je voudrais t'entendre sur le fait que il faut en avoir pour entreprendre, quoi. Je veux dire, cette communauté
d'entrepreneurs. Ça, tu as raison.
Non, mais
ça, tu as raison. Je pense qu'il faut envie, parce qu'il y a plein de femmes qui entreprennent. Mais voilà.
Ça, c'est de l'humour à la Bellevaux. Bravo. Il est trop fort. Non, mais il faut avoir un courage énorme.
C'est pas forcément un courage, c'est une conviction.
Je dirais deux choses. D'abord, c'est vrai que nous, on a fait le choix depuis le début, parce que IAD veut dire, on ne le dit plus, mais voulait dire à l'époque immobilier à domicile, ça veut dire sans agence. Nous, on a fait le choix de ne pas avoir d'agence.
J'ai appris quelque chose, je suis content.
Pourquoi parce que nous, on le dit plus, mais c'était, ça veut dire ça. Parce que nos cofondateurs se sont dit, mais la technologie va faire en sorte que l'agence ne va plus être indispensable. Moi, je ne suis pas de ceux qui
disent... La technologie ne remplacera jamais l'humain.
Tu viens de finir ma phrase. Jamais. Et donc, nos cofondateurs ont vu avant tout le monde, on les respecte pour ça, que la technologie allait faire en sorte que l'agence n'allait plus être indispensable. Que l'humain allait être au cœur, bien évidemment. On a 16 000 personnes. Ceux qui comparent parfois des plateformes, si on était une plateforme, pourquoi il y aurait 16 000 personnes sur le terrain? C'est que l'immobilier, quelle que soit la façon dont on le fait, c'est un métier d'homme et de femme. Donc ça, personne ne pourra le retirer. Donc on n'a jamais peur de l'ubérisation de l'immobilier, puisqu'elle n'arrivera jamais, puisque ce sont des hommes et des femmes qui vont le faire. Et le meilleur modèle, c'est nous qui sommes sans agence, on a 16 000 personnes sur le terrain. Donc ça veut dire qu'on a vraiment cette connaissance très forte. Par contre, il y a deux choses. Devenir entrepreneur, pourquoi? Il faut que ça le vaille. C'est-à-dire que chez nous, tu as plusieurs schémas. Je vais prendre entrepreneuriat ou salarié. Si je suis salarié, je prends un risque entrepreneurial à zéro. Globalement à zéro.
Oui.
Je vais dire à zéro pour faire simple. On peut être un salarié actionnaire, mais globalement à zéro.
Et tu seras mieux considéré. Tu as droit au chômage nu, tu as droit à des avantages.
Donc être salarié ou être entrepreneur, quelque part, il y a un engagement. Parlons pas d'en avoir du cas. Il y a un engagement qui doit donner un bénéfice en face ou une sécurité en face. Si je deviens entrepreneur chez nous, pourquoi les gens deviennent entrepreneurs? Pourquoi ils sont 16 000? Parce que, ils sont propriétaires de leur fonds de commerce, qui n'est pas partagé qu'à un ou deux dirigeants, mais ils sont tous propriétaires d'un fonds de commerce. C'est-à-dire que quand ils quitteront le réseau...
Ils peuvent le vendre?
Bien sûr, tout le monde le vend. Tous les mois, il y a des ventes de fonds de commerce. Tous les mois, ce qui ne se passe pas quand on est salarié.
Ça se valorise comment?
C'est un multiple par rapport au niveau de commission managériale qui sont générés.
D'accord.
Là-dessus. D'accord. Okay. Deuxième élément, on a un point très clair.
Un petit montant de vente quand même, parce que... Excusez-moi, prix d'agence de transaction,
Non, mais c'est un petit peu compliqué, parce qu'à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on s'interrompt. Je trouve que c'est mieux quand on va au bout du propos. Pas pour nous, parce que nous, on sait ce qu'on dit, mais c'est pour ceux qui nous écoutent.
Merci pour le débat,
Mais c'est intéressant. Donc aujourd'hui, tu es salarié, tu as une sorte de sécurité. Tu as un revenu qui est assuré par le patron de l'agence.
Une vraie sécurité.
Plus que ça.
Mais quand tu es, et tout le reste, mais quand tu es entrepreneur, tu dis, je prends ce risque-là d'être entrepreneur pour une rémunération supérieure.
Oui.
Nous, on rémunère jusqu'à 85% des honoraires. C'est pas neutre quand on regarde, pas dans le débat, entre 40 et 50, quand on est en moyenne, c'est ce qu'on constate, c'est ce que disent nos confrères vitrés, ou dans un modèle de ce type-là. Deuxième élément, tu accèdes à une totale liberté. Pas d'agenda, pas de permanence le samedi, pas de réunion obligatoire, tu es ton propre patron. Liberté que tu as voulu prendre, que chacun a voulu prendre. Donc ça, nous, on la confie à tous nos entrepreneurs. Et ensuite, il y a une session, et la session... Elle est faite assez simple, du fonds de commerce qui leur appartient. Ils vendent. Pourquoi ils vendent? Parce que si je suis manager, nous, on leur reverse des commissions managériales au-delà de la transaction. Autrement dit, des honoraires captés par nous, tête de réseau. On reverse des commissions jusqu'à de 69 à 85% des honoraires. Et en plus de ça, pour ceux qui ont une équipe, on les rémunère comme manager indépendant en disant, tiens, puisque dans ton équipe, il y a une performance, tu connais le schéma par cœur, une performance, c'est rémunéré. Et donc, cette rémunération managériale a une valeur. Parce que supposons que je sois dans le réseau comme manager. T'as envie de devenir manager, tu reprends ma position, je te revends ma position, tu vas avoir dès le lendemain matin une équipe de 10, 15, 20, 30, 50, 100 personnes, peu importe, qui génère des transactions, qui génère à IAD France des honoraires, sur lesquels nous, on pourra te rémunérer comme animateur de cette équipe. Et donc, évidemment qu'il y a un risque à prendre, mais si le risque n'apporte pas plus de rémunération, n'apporte pas plus de liberté, n'apporte pas plus de valorisation du fonds de commerce que si je suis salarié, les gars, ils restent salariés. Et moi, je suis très détendu là-dessus. La vie est faite de métiers en France. Je vais prendre le métier d'instituteur ou de professeur des écoles. Heureusement qu'il y a des gens qui veulent gagner que 2000 ou 2500, même si on les rémunérait bien plus, pour être prof, parce que c'est des vocations. Et aujourd'hui, moi, je pense qu'il y aura dans toute l'histoire de l'immobilier, il y aura des gens qui seront salariés dans des agences, qui ne sont pas intéressés pour prendre ce risque entrepreneurial, qui vont dire « Ok, j'accepte ce jeu. Je suis salarié. La valeur, elle appartient à mon franchisé, à mon patron et pas à moi. Mais je m'y retrouve. » Donc moi, je pense que dans chacun des modèles entrepreneuriaux, il n'y a pas à les opposer, puisqu'il y a des candidats à chaque aventure humaine dans l'immobilier, et chacun a le choix d'être chez toi, d'être chez moi, d'être ailleurs.
Bien sûr.
Et c'est un choix qui est respectable. Donc moi je ne suis jamais de ceux qui opposent. Après, il faut prendre les résultats, les performances, mais il faut décrire honnêtement les opportunités. C'est-à-dire que si tu veux avoir ça et ça, c'est entrepreneur. Entrepreneur, tu prends ton risque. Hein, tu prends ton risque, parce que quand il y a le Covid, il y a eu le quoi qu'il en coûte, mais le quoi qu'il en coûte ne faisait que 70% des 100%. Et donc, je te rejoins. Donc, il manquait 30% en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est tout à fait juste. Mais à l'inverse, si je suis salarié, non. Et donc, nous, on est très clair dans la présentation. C'est-à-dire, si tu choisis le modèle entrepreneurial AD, voici ce que tu vas avoir droit. Voici l'intérêt que tu vas avoir. Si tu es salarié, voici ce que tu auras comme autre avantage. Et c'est le choix. Et
mais
moi, je pense que chacun est libre.
Mais par rapport à ça, Olivier, enfin, que ce soit Olivier ou Benjamin, il faut être cohérent sur un élément qui est simple, c'est que vous avez pu vous développer tous les deux, au-delà du modèle de salarié ou MLM, parce que vous aviez des piliers. Des piliers, c'est des personnes qui ont cru au modèle entrepreneurial que vous développez. Voilà, localement.
Bien
ça,
sûr.
C'est le premier point. Après, il y a le portage salarial aujourd'hui, depuis maintenant une dizaine d'années, qui est présent, qui permet de contrebalancer ces sujets, qui permet
qui
d'obtenir des crédits.
Il est interdit dans l'immobilier, mais...
Il est interdit, en tout cas, il est pratiqué par aujourd'hui énormément de réseaux, et jusqu'à la jurisprudence. Et pas, pour le moment, en tout cas, il n'y a jamais eu de condamnation en 10 ans sur la partie jurisprudence, Olivier. Dans les faits, sauf si tu sais me le démontrer là, mais je ne l'ai pas vu.
En tout cas, les actions, pas portées par nous, les actions portées auprès du procureur de la République sont en cours.
Oui, sont en cours, mais
jusqu'à présent... Mais en tout cas, nous, on ne le fait pas, parce que la loi Hoguet est en contradiction avec ça. Hein.
Et si je vais plus loin que ça, c'est qu'il y a trois types de modèles que j'ai toujours eu le sentiment de définir. On a un... Le salarié, qui est le collaborateur, effectivement, il a besoin, dans son autonomie, d'avoir quand même un cadre, une organisation, etc.
Pas forcément.
Je suis d'accord, mais il a besoin, en tout cas, d'avoir des repères. Est-ce que tu es d'accord avec ce terme?
Il a besoin d'appartenir à une entreprise.
Oui, des repères.
Mes salariés, ils sont attachés à l'entreprise. Ils défendent mieux que moi mon entreprise.
Voilà. Je suis d'accord, mais parce qu'ils ont à un moment, ils ont cru à un mindset, ils ont cru à une culture et à un ADN.
Bien sûr.
Et leur place a du sens.
C'est pas parce que c'est les salariés, ce sont pas les entrepreneurs.
Ah, mais ça, je suis d'accord.
Ce sont des entrepreneurs.
Mais
ils ont un contrat de salarié.
Là-dessus, je suis d'accord. Mais pour autant,
bien sûr. Mais c'est des gens qui créent avec moi, et encore une fois.
Ouais. Moi, je te donne juste l'expérience. J'ai un peu le sentiment que j'ai les trois modèles. J'ai les salariés, j'ai les agents co, et j'ai également du MLM. La seule chose qui est assez différente, c'est quand tu parles à un mandataire immobilier aujourd'hui, tu parles à un entrepreneur tel que toi. Il faut être clair. Tu lui parles, même s'il a 5 ou 8 personnes, lui, dans son ADN, il est le même que toi, et il a bien raison. Dans les faits. Le deuxième, quand tu as un agent commercial, tu as quand même quelqu'un qui veut rester quand même dans une organisation de structure de proximité. Est-ce que ça, on peut le reconnaître? Moi, j'ai ce sentiment, en tout cas, avec l'expérience. Et pour avoir fait pratiquement 10 ans à la coopérative, c'est un peu ce que je voyais, parce qu'on avait un modèle, soit, on va dire, 55 qui étaient salariés, 45 qui étaient agents.
C'est plus confortable, mais ça reste quand même de l'indépendance.
Il y a une forme d'indépendance, mais on a envie de faire partie d'un collectif.
Mais c'est un peu comme la franchise. Quelque part, on choisit une franchise pour être un peu plus en sécurité, parce qu'on a de la formation, on a des outils,
un accompagnement.
Tu as raison, mais un agent co, enfin, il te quitte du jour au lendemain parce que
le voisin
d'à côté lui a proposé 1% de plus ou parce que.
Pas forcément. Là, c'est la même chose que du collaborateur qui reste salarié.
Bonne question. Volatilité. Sur la volatilité, bonjour 40, au revoir 50. Sur la surenchère, quel est le chemin?
Mais c'est pas ton statut.
Non, c'est pas tout. Puis moi, je partage vraiment, je suis l'avis de Benjamin sur un point.
C'est ton statut qui te protège.
Peu importe ton statut, si tu te sens bien et que tu as épousé le modèle, tu restes.
Évidemment.
Le statut ne prévoit pas un salarié.
Olivier Descamps.
Il peut te quitter pour s'il veut être mieux payé, il pourrait le faire. Un agent aussi. Après, c'est la culture. Non, mais après, c'est la culture.
Bien sûr. Mais
après, on revient, c'est bien la culture humaine.
Oui.
Parce que la surenchère, on a tous les jours partout. Donc, c'est bien la culture que tu as mise en place. La valeur,
c'est
le management,
la vision.
L'animation par l'humain qui fait la différence. Et à la fin, tu te dis, ok, la petite carotte,
c'est pour ça que je suis convaincu par rapport à ce que tu disais, que la technologie vient...
En support.
Réduire les tâches chronophages.
Bien sûr, mais que notre métier restera de l'humain. Quoi. La poignée de main, le regard, l'accompagnement, l'humanité, etc. C'est notre métier. Quoi.
Voilà. Et c'est pour ça que je pense, quand tu parles des agences qui ont fermé, et tu es mieux placé que moi pour parler des agences, tu les connais, tu les côtoies, je pense qu'aujourd'hui, tu dis en introduction, ouvrir une agence aujourd'hui pour l'ouvrir de la même façon qu'en 2010, c'est suicidaire.
C'est
ça le vrai sujet. Et je pense que bon nombre d'agences qui ont fermé, c'est peut-être des agences qui ne se sont pas renouvelées, comme des mandataires qui ont arrêté qui ne sont pas renouvelés. Hein, je mets tout le monde là-dessus. Oui. Donc aujourd'hui, s'updater sur un marché qui a bougé, technologie, l'accès à la technologie pour les clients. Aujourd'hui, mais toujours, les clients aujourd'hui accès à des informations qui étaient uniquement détenues par nous il y a quelques années.
C'est la même chose que mais quand tu achètes une voiture il y a 10 ans en arrière. Aujourd'hui, tu en sais plus que celui qui la vend.
Bien sûr. Olivier, tu as raison. Il y a un vrai sujet sur le fonds de commerce, la valorisation d'une agence vitrée entre guillemets, et que quand on compare, il faut être très honnête, le nombre d'agences ouvertes physiquement, il y en a moins. Il y en a beaucoup moins. Et c'est pas évident pour le modèle du franchiseur traditionnel. Ils sont pas très nombreux. Il y a 5-6 marques de franchise Vitré qui comptent. Entre Century, La Forêt,
ils sont sur le podium, etc. Si tu prends Century Europe, ils sont sur le podium derrière nous.
D'ailleurs, pour la plupart, appartiennent aujourd'hui au groupe Arche, qui est quand même le groupe dominant aujourd'hui de l'immobilier, qui, je rappelle, qui est un groupe familial et qui est un groupe indépendant et surtout ultra solide. Et que c'est vrai qu'on parle d'humanité, il faut reconnaître. Quand on voit la dimension du personnage qu'il incarne, parce que ça, c'est une chose qu'il faut voir une fois dans sa vie, c'est voir Philippe Briand faire un discours ou faire un rendez-vous avec lui. C'est plus qu'une leçon de vie. C'est incroyable.
Je t'invite à la prochaine convention pour écouter Malik Benrejdal.
Ah mais je veux bien.
T'auras les mêmes étoiles dans les yeux.
Moi j'ai la chance de connaître Philippe Briand à titre personnel. Il me fait l'honneur de son amitié et parce qu'en plus humainement c'est quelqu'un de absolument exquis. Mais au-delà de tout cela. Quand tu vois la vie qu'il a eue, parce qu'il faut rappeler quand même qu'il a été questeur pendant 10 ans à l'Assemblée nationale, qu'il a été secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, même s'il y est resté que 2 semaines, il a été député pendant plus de 25 ans.
C'est un peu la mode en ce moment.
Il s'est représenté aux élections, il a été élu en 1989, plus jeune maire de France quasiment. Ouais. J'allais dire que s'il y a eu quelqu'un qui s'est penché sur le berceau de Philippe Briand, c'est extraordinaire. Et en même temps, il a eu une vie aussi parfois tragique, et c'est un homme, il faut le dire, qui est d'une humanité absolument incroyable et qui plaît ou qui déplaît. En tout cas, je peux vous dire qu'il n'est jamais indifférent. Et c'est intéressant parce que ça peut expliquer aussi le succès. Moi, je vois Xavier Belbeau. Bon, Xavier Belbeau, dans le métier, on l'appelle la machine, on l'appelle la barre en titane, c'est un bulldozer. Non. Il est capable de vous envoyer, mais c'est vrai, il est capable de vous envoyer à 4h du matin un texto, d'être sur le pont à 8h du matin et un autre rendez-vous
comme
à 9h.
Ces messieurs.
C'est un vrai entrepreneur.
Voilà. Oui, mais voilà. Comme ces messieurs. Comme vous le faites. Vous êtes passionné.
Mais pardonnez-moi,
vous êtes doté d'une survitalité. Et ce que je trouve, et c'est la responsabilité.
Tu regardes ton compte en banque.
Et c'est la responsabilité que vous avez tous les trois à l'égard du public, c'est de servir d'exemple.
Moi, je dis juste quelque chose d'important, enfin, je pense, en tout cas, c'est qu'avec l'expérience que j'en ai eue, on parle beaucoup d'agences confirmées. Les principales agences confirmées, il ne faut pas l'oublier, c'est des agences qui étaient indépendantes, qui se sont fait noyer par des coûts, parce qu'on parle toujours un peu du modèle économique, où on parle souvent de la crise. Non, je pense qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de la crise, où il y a des gens qui réussissent très bien quand la crise... Et là, en réalité, c'est qu'on pourra dire ce qu'on veut sur un réseau, une marque, on n'est pas là. Je pense que dans les 15 ans, les marques d'aujourd'hui ne seront pas les marques de demain. Ça, j'en suis intimement convaincu. Mais c'est une conviction personnelle. Elle n'est pas là pour ouvrir un débat. Je me sens absolument personne pour le faire. Par contre, j'ai vu beaucoup de gens qui fermaient. Pourquoi ? Parce que les coûts des portails étaient importants, parce qu'ils ne savaient pas comment prendre l'IA, parce qu'ils ne savaient pas manager. C'était des très bons agents co, mais ils n'avaient pas cette capacité de pouvoir aider l'autre à le faire grandir. Et je pense qu'en
mais
France.
C'est un vrai métier, ça.
Et ben voilà. Et je pense qu'en France, le vrai problème, il vient.
On n'est pas accompagné.
Il est plus largement, il est de l'accompagnement. Et toutes ces grandes franchises qui existaient aujourd'hui, je dis juste qu'il faudra qu'on regarde derrière nous dans 5 ans comment elles se seront adaptées à toutes ces nouvelles évolutions qu'il y a. Parce que j'ai de plus en plus le sentiment que se retrouver une table, en assemblée générale autour d'une table et de se dire les choses, attention, il y a beaucoup d'entreprises dans l'immobilier qui se sont fait racheter en famille. Les gens sont beaucoup plus jeunes, ils n'ont plus les mêmes attentes, ils n'ont plus les mêmes besoins, ils évoluent. Moi, j'ai une agence sur 3 aujourd'hui qui est en double modèle.
Oui, mais par rapport à ce que disait Benjamin tout à l'heure, d'abord, il n'y a pas de grande entreprise qui ne vive et qui ne dure s'il n'y a pas de grands fondateurs et de grands hommes ou de femmes à leur tête. C'est une caractéristique.
Et piliers. En tout cas, il faut des piliers.
Mais il en faut. Et après, nous, on doit avoir des piliers avec nous. Ensuite, ce que tu dis, c'est l'attachement. Aujourd'hui, c'est le thème, c'était est-ce qu'il est suicidaire de se lancer ? Moi, je dis non, il n'est pas suicidaire. Mais par contre, il y a des cas où il est suicidaire de le faire. Par exemple, se lancer demain dans une agence solo, si je veux être franchisé et avoir des salariés et me lancer seul, sans être adossé à une des quelques grandes marques, parce que moi j'entends aussi beaucoup de monde se dire grand réseau, hein, on entend tout ça, les vrais grands réseaux comme le tien, moi je dis c'est suicidaire. Se lancer comme entrepreneur, comme mandataire, si t'es pas parmi le top 3 des grands réseaux, c'est suicidaire. Parce qu'aujourd'hui, l'apport que t'apportes ces 21, les outils, les informations...
Alors les trois grands réseaux, Olivier, oui ou non, parce que t'as 10 réseaux.
L'accompagnement juridique, la protection, tout ça, ça a un coût. T'as raison, hein, c'est un coût, parce que tu as une redevance, mais c'est protecteur. Donc moi, là-dessus, mais c'est ma position, je trouve que le conseil des jeunes, c'est que c'est suicidaire de le faire, parce que la législation va tellement vite. La technologie va tellement vite, le marché bouge tellement vite, il faut avoir accès à tellement de data qu'aujourd'hui, même en ayant le succès que tu as, bah, tu sais très bien que seul, tu serais moins fort qu'adossé à ton enseigne. T'es d'accord ?
Messieurs, je vais devoir vous mettre en attente un tout petit peu, parce qu'on a une séquence qui s'appelle le vrai du faux, mais si notre ami Xavier est d'accord, j'aimerais que vous restiez avec nous pendant cette séquence avec Sandrine Lanonnier qui est en duplex pour faire une mini-conclusion tous les trois. Est-ce que vous êtes d'accord, Xavier ?
Moi, j'ai aucun problème.
Eh bien, super. Super. Donc, je vous propose qu'on passe, puisqu'on a la chance d'avoir Sandrine Lanonnier, porte-parole de ce Bouffe Financier qui est avec nous en duplex. Est-ce qu'elle est en duplex avec nous ?
Je suis bien là. Bonjour Sylvain, bonjour
Sandrine Lanonnier. Bonjour Sandrine Lanonnier, porte-parole de Vous Financer. Vous êtes en plateau avec notre ami Benjamin Mondou, président du groupe Century 21 Lafage sur le littoral méditerranéen. Le grand patron de l'immobilier, le shérif de la ville qui est avec nous, c'est Olivier Descamps, patron d'IAD. Toujours un plaisir de... J'aime beaucoup échanger avec toi. Et bien sûr, l'incontournable, seul, l'unique, notre ami Xavier Bellevaux. Le vrai du faux, séquence avec Sandrine Lanonnier, tout de suite après ça. Messieurs, vous restez avec nous sur le plateau. J'interroge Sandrine Lanonnier. Est-ce qu'elle est en visuel avec nous ou elle est juste au téléphone ? Voilà. Bonjour Sandrine. Vous nous voyez bien ? Ça va ?
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Voilà, je vous présente. Vous connaissez tous l'incontournable Sandrine Lanonnier. Alors, vrai ou faux, parce qu'on veut y voir plus clair, hein, Sandrine. En ce moment, c'est compliqué sur l'évolution du taux immobilier. On voit tout et son contraire. On voit des banques qui font de la promotion sur des taux bas, d'autres banques qui ont relevé un peu leur taux. Complexe cité géopolitique, économique. Bref, vrai ou faux, est-ce que la baisse des taux est désormais terminée ?
Eh bien non, on ne peut pas dire que la baisse des taux soit terminée, tout simplement parce que finalement les banques n'ont pas encore atteint leurs objectifs de production de crédit, justement à cause de la guerre en Iran, il y a eu un vrai impact sur la demande et la production de crédit est ressortie en baisse en avril et en mai. Et du coup, pour relancer cette dynamique de demande, bah, certaines banques ont baissé leurs taux sur le mois de juin et juillet, donc c'est le cas de cette Banque nationale qui fait un taux unique à 3,10% sur 20 ans et 3,20% sur 25 ans, c'est très bas. Et à la rentrée, on pourrait avoir de nouveau quelques baisses de taux si les banques sont en retard sur leurs objectifs. Donc finalement, la hausse des taux de la Banque Centrale Européenne n'a pas eu d'impact négatif sur les taux de crédit, justement parce que la demande est trop faible et que les banques veulent la booster. Alors donc la baisse des taux n'est pas complètement derrière nous.
Alors cette baisse des taux, effectivement, donc confirmé, mais il y a cette banque qui fait des pubs incroyables, c'est la Société Générale, et c'est juste hallucinant parce que c'est rare de voir une publicité. Alors, autre question géopolitique, on sait que vous êtes une experte également en géopolitique, les tensions internationales, parce que c'est ce qu'on se dit tout le temps, est-ce que réellement ça peut faire monter les taux, les remonter les taux, des tensions géopolitiques à l'international ? Est-ce que ça a une incidence directe ?
Oui, tout à fait. Ah, oui. Je réponds vrai. Et c'est pas direct, c'est indirect par plusieurs canaux ou vecteurs. On l'a très bien vu lors de la guerre en Ukraine, où on a eu une montée de l'inflation, résultat une montée des prix de l'énergie également, une montée des taux de la Banque Centrale Européenne et une montée des taux d'emprunt d'État. Donc c'est vraiment cet environnement global de hausse des prix et des taux des marchés financiers qui conduit à la hausse des taux de crédit. Là, sur cette année particulière avec la guerre en Iran, on a vu un peu le même phénomène avec la hausse du coût de l'énergie, un début de hausse de l'inflation, une hausse des taux d'emprunt d'État qui ont dépassé les 4% et la Banque Centrale Européenne qui a aussi remonté ses taux. Pour pour l'instant, tout ça reste très volatile. Et c'est pour ça qu'on n'est pas dans la même situation que lors de la guerre en Ukraine. On va bien voir combien de temps va durer le conflit et quelles seront ses implications, puisque pour l'instant, on a des taux d'emprunt d'État qui ont rebaissé, l'inflation aussi qui est repassée en France sous les 2%, et finalement, la Banque Centrale Européenne qui pourrait ne pas augmenter ses taux à nouveau au mois de septembre. Donc oui, il y a bien un impact du contexte géopolitique sur les taux de crédit via tout ce qu'on a dit sur l'économie. En revanche, c'est vraiment le cas lorsque le conflit est durable et lorsqu'il est proche de nous. Là, il est un peu plus éloigné. Donc, c'est ce qui explique aussi que l'impact soit moins direct pour l'instant, mais vraiment à surveiller sur le deuxième semestre.
Alors, question importante pour les porteurs de projets, tous ceux qui veulent investir, ceux qui sont dans un schéma aussi résidentiel de primo-accession. Est-ce que les banques restent offensives pour attirer de nouveaux emprunteurs, vrai ou faux ?
Oui, les banques restent offensives sur les primo-accédants. Pourquoi ? Parce que ce sont pour elles les clients qu'elles vont le plus accompagner, c'est-à-dire le plus équiper en produits durant bien le cycle de leur crédit, si je puis dire. C'est-à-dire très concrètement qu'un jeune couple de 30 ans qui veut acheter un bien immobilier, s'il est un peu éloigné, il va acheter une voiture peut-être dans 2 ans, donc prendre un crédit auto, assurer la voiture. Comme il n'a pas encore trop de connaissances ou qu'il n'est pas encore trop averti, il va sûrement prendre des livrets au sein de la banque, une assurance vie, puis il va avoir des enfants, il va du coup équiper ensuite ses enfants. Donc c'est ce qui intéresse la banque, c'est vraiment de pouvoir équiper ses clients, et c'est pour ça qu'à l'inverse, sur les investisseurs, elles vont proposer des taux moins avantageux, puisqu'on est souvent sur des clients multibancarisés, aussi des comptes dans des banques en ligne. Donc vraiment, sur les primo-accédants, c'est vraiment ce qui intéresse les banques. Et pour cela, elles sont capables de faire des taux bien plus bas. C'est-à-dire qu'un jeune de 30 ans avec 2000 euros de revenus peut avoir le même taux qu'un quadragénaire qui gagne 5000 euros par mois. On a des offres spéciales pour les moins de 36 ans dans des banques. On peut aller aussi jusqu'à des prêts jusqu'à 30 ans. Et puis, on a tous ces prêts aidés. Par exemple, 1,99 pour 20 000 euros quand on est primo-accédant. Même 20 000 euros à 0%. Donc, tous ces prêts aidés qui, additionnés, viennent sensiblement réduire le coût du crédit. Donc, pour ça, ça ne change pas. Les banques recherchent des emprunteurs.
Ça peut resolvabiliser un dossier.
Voilà, ça permet d'emprunter parfois 10 000 euros de plus. On peut avoir 10 000 euros d'écart entre une banque qui va avoir ce type de prêt aidé et une autre qui ne les a pas. Donc, vraiment, ça a un vrai intérêt. Et d'ailleurs, on le voit chez Vous Financez, le taux moyen, toute durée confondue, c'est du prêt principal, c'est 3,33%. Et dès lors qu'on inclut tous ces prêts aidés, le taux moyen, toute ligne de prêt confondue, c'est 2,48%. Donc, on voit bien l'impact de ces prêts aidés.
Alors, vrai ou faux, attendre, vu le contexte, avant d'acheter, ça pourrait être une erreur.
Alors, vrai, attendre n'est jamais une bonne idée. Alors, pourquoi en particulier maintenant ? Alors, évidemment, il faut déjà avoir un projet un peu avancé. Mais ceux qui ont un projet avancé et qui empruntent maintenant, on l'a dit, les banques sont en retard sur leurs objectifs. Elles préfèrent réaliser leurs objectifs de production de crédit plutôt au premier semestre, puisqu'elles aussi, elles sont dans un contexte incertain. Donc, on a en ce moment des conditions de taux très attractives, avec des conditions sur l'apport très raisonnables aussi. Même moins de 10% d'apport, ça marche. Pour le deuxième semestre, il y a cette incertitude sur la durée du conflit qui est reparti depuis 2 jours. Il y a cette incertitude sur l'inflation, sur la hausse des taux de la BCE. Rien n'indique que la situation sera plus favorable sur la deuxième partie de l'année. Et s'il y a des baisses de taux, comme celles que j'évoquais en début d'interview, elles seront quand même marginales. Donc là, on sait que là, les banques veulent prêter. Et c'est vraiment les banques qui font le jeu du marché, si je puis dire. On voit bien que quand elles ouvrent le robinet, comme c'est le cas, le marché est vigoureux. Et là, je dépasse un peu mes prérogatives, mais tous ceux qui sont sur votre plateau le diront, on a une offre de biens qui est abondante, la possibilité de négocier les prix. Donc, on peut négocier et le prix du bien et le taux. Donc, ça me semble être une erreur d'attendre.
On est vraiment sur un marché d'acquéreurs. Dernière question, vrai ou faux, est-ce qu'on terminera de toute façon l'année avec des taux qui seront plus élevés qu'aujourd'hui, irréversiblement ?
C'est très difficile à dire. Je me plierai pas à cet exercice. N'oublions pas qu'en début d'année, certains ont dit qu'on atteindra des taux à 4%. fin 2026, finalement, les taux ont un peu rebaissé. On peut emprunter, on l'a dit, encore aux alentours de 3%. Donc là, c'est vrai que ce contexte géopolitique trop incertain est difficile à dire. En tout cas, je pense que l'année 2026 sera quand même une bonne année, même si quand on regarde au microscope, c'est quand même en dents de scie. Et moi, je reviens sur le fait que mieux vaut ne pas attendre et que 2027 sera une année électorale et qui sera forcément beaucoup plus compliquée, avec là aussi peut-être des hausses de taux, notamment si un parti extrême venait à être élu ou en tout cas en bonne position. Donc voilà, pas de pronostic encore pour cette fin d'année. Mais en tout cas, une fenêtre de tir avant la fin de l'année, c'est certain.
Un immense merci, Sandrine Annonier. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Vous Financiers. Merci pour ces questions extrêmement précises et surtout votre connaissance de l'environnement géopolitique. Bravo. Merci pour ces conseils.
Merci.
On va passer maintenant à la conclusion. J'ai demandé à nos invités de rester sur le plateau pour pouvoir faire cette conclusion. On l'a vu avec Sandrine, les taux aujourd'hui sont effectivement ceux qui préconisaient une hausse sensible se sont trompés, hein, pour être très clair. Il y a une hausse graduelle, mais plutôt bien maîtrisée par rapport à ce qu'on a connu. Il faut quand même juste rappeler que fut un temps, il n'y a pas si longtemps, les taux ont augmenté de plus de 300 ou 400 points de base en l'espace de 2 mois ou 3 mois. Et ça a été d'une violence inouïe que nous n'avions jamais connue, parce qu'on s'était habitué effectivement à avoir de l'argent quasiment gratuit, hein, pour vous dire la vérité. Et pour les générations anciennes, on se rappelle ce que c'était que d'emprunter des fois à 12, 13 ou 14%, bien évidemment. Mais il n'y avait pas la même inflation. La question que je vous pose, messieurs, pour conclure, justement, est de conclure sur une bonne note. Oui, le marché se porte bien de la transaction en France, et je reprends les mots, c'est pas un discours alarmiste, mais quand même, il faut nuancer le propos. Il y a un combat à mener pour la valorisation de la profession, pour le recrutement et l'entrepreneuriat. Je voudrais vous laisser chacun un mot, une parole pour conclure. Je voudrais te proposer, Olivier, de commencer.
D'abord, oui, le marché immobilier se porte plutôt bien, et on a encore vu là les taux, donc pas de position alarmiste. Par contre, il y a un combat pour le logement. Qu'il faut avoir. Derrière l'immobilier, merci, il y a le logement. Un combat pour le logement. Il y a un combat pour le statut de bailleur privé. Je rappelle que les bailleurs privés, c'est-à-dire les indépendants français et françaises, logent plus de Français que l'État. Donc ce n'est pas honteux d'être un bailleur privé. Donc on doit revenir à tout ça. Le ministre a proposé des choses. J'espère que le calendrier présidentiel ne va pas remettre en cause les audiences qui vont avoir lieu au Sénat. Et ensuite, pour revenir sur ta thématique, hein, moi je redis, hein, il y a des modèles pour chacun. Il y a des modèles pour chacun. Nous faisons tous le même métier. Entreprendre, c'est prendre son risque. Et quant à prendre le risque, autant le prendre pour un bénéfice d'entrepreneur qui soit fort. Et donc, aujourd'hui, moi, je n'oppose pas les modèles. Je dis chacun doit vanter les qualités de ses modèles plutôt qu'essayer de voir ce qui se passe de bien ou de mal chez l'autre. Et donc, moi, je dis et bravo à Benjamin pour ta réussite. C'est top. Merci. Et merci, bravo Olivier. À toi. Merci. Pour ta première... Tes 18 premiers mois, si je ne me trompe pas, tes 18 premiers mois qui sont aussi une très belle réussite.
Oui, voilà. Une chose que j'apprécie chez toi, Olivier, c'est tu es un vrai démocrate, si je peux me permettre de le dire comme ça. Non, mais je m'explique. Tu n'as jamais hésité à débattre, à te confronter. Et je trouve que la vitalité de notre démocratie, c'est notre capacité. Parce qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord sur certains sujets avec Benjamin, mais on n'est pas obligé d'être d'accord pour pouvoir avoir, de manière, j'allais dire, très fraternelle, un débat constructif, parce que le dénominateur commun de vous trois, c'est que vous logez des Français tous les jours, que vous aidez des entrepreneurs et que vous réalisez les rêves des gens aujourd'hui au quotidien.
Oui, alors je vais rajouter un point, tu as raison, on fait le même métier, on doit rendre heureux nos vendeurs acquéreurs, mais on doit rendre heureux également ceux qui nous font confiance,
collaborateurs,
partenaires, franchisés ou mandataires, on doit les rendre heureux. Absolument. C'est notre job d'être à la fois rassurant, sérieux, solide, mais on doit avoir cheville au corps, toi tu le fais, tu en as décrit pas mal de choses, et toi alors juste pour conclure là-dessus, et comme le monde il est jamais tout noir ou tout blanc, en France il y a 250 espaces de coworking et de formation, il y a des... Donc d'accord. On est immobilier sans agence, mais néanmoins il y a 250 points de rencontre parce que les hommes et les femmes ont besoin de se réunir, ont besoin d'être ensemble. Et donc c'est jamais tout noir tout blanc, quoi. Voilà.
Bien sûr. Un immense merci Olivier, Olivier Descamps, président de IAD France. Merci. Benjamin Mandou, quelques mots de conclusion.
Ouais, je rejoins Olivier, c'est-à-dire que pour moi également le marché se porte plutôt bien. On va faire, en tout cas sur les 6 premiers mois, on fait plus 13% par rapport à l'année dernière, donc c'est plutôt pas mal. Je suis également actionnaire de deux agences Vous Financez chez moi, et on n'a jamais eu autant de demandes de financement. Donc Donc c'est plutôt de bons signaux. Beaucoup de primo-accédants qui souhaitent investir dans l'immobilier. Je considère qu'aujourd'hui, notre métier, il doit être très large. Il faut, moi, je fais de la résidence principale, du haut de gamme, de la résidence secondaire, de la location, de la gestion du syndic, des commerces, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir plusieurs cordes à son arc si on veut...
Est-ce que je peux mentionner une anecdote qui est arrivée au groupe Mondou ?
Avec plaisir.
Qui démontre la qualité du service. Ouais. Un jour, il y a une dame d'un certain âge qui n'avait pas les garanties suffisantes pour se loger dans un appartement. Et malgré tout, dans son writing, Benjamin a dit « Bon, c'est pas grave, vos dossiers, je vais le faire passer. » Parce qu'elle ne répondait pas aux demandes du locataire. Il l'a placée, elle a eu sa location, elle avait un très peu faible revenu, etc. Quelques années après, cette personne est revenue dans l'agence et elle a choisi un bien qui coûtait à l'époque 5 millions d'euros, je crois.
Exactement.
Et Benjamin lui a dit « Mais 5 millions d'euros, enfin, en reconnaissant la personne. » Elle lui dit « Oui, mais moi, j'ai gagné au loto. » et je veux cette maison. Et je ne serai jamais allé ailleurs que chez vous en tant qu'agent immobilier. Comme quoi, ce qu'on crée dans le sillon, on ne mesure jamais assez l'importance de la personne que l'on va croiser aujourd'hui, qui peut être demain, se révéler être. Et je pense que je me suis permis de rappeler cette anecdote, mais elle est très illustrante.
Et j'en ai beaucoup comme ça.
Voilà.
Et ça résume bien, c'est l'humain, notre métier.
Voilà,
c'est-à-dire que cette dame, elle n'est pas les critères pour entrer
dans
une loyer impayé.
Tu l'as aidé à se loger. Hein.
Je l'ai aidé à se loger. Je lui ai fait confiance et j'ai eu raison de lui faire confiance parce qu'elle n'a jamais eu un impayé. Et 5 ans plus tard, elle gagne une très grosse somme au loto et elle m'a acheté, je crois, pour 15 millions d'euros d'immobilier.
Ça t'imagine.
Donc, c'est de belles histoires, mais encore une fois, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est ça. C'est cette passion l'accompagnement. On fait de l'humain. C'est pour ça que la technologie viendra renforcer, viendra aider notre métier.
Mais tu vois, Benjamin, tu fais du luxe, mais aussi tu as aidé des gens très modestes et il n'y a aucune exclusive chez Mondou. C'est ça qui est bien. Ça qui est bien.
Et ce qui me rend très fier aujourd'hui, c'est que je vends aux enfants de mes premiers clients.
Voilà.
Ça, c'est formidable. Quand ils pensent immobilier, ils pensent Benjamin Mondou. Et ça, c'est génial.
Merci.
C'est Benjamin Mondou. Ça me fait penser à mon coiffeur, qui est à la troisième génération.
mais j'adore. Et c'est pas pour ouvrir le débat des agences, pas agences.
Oui,
c'est souvent ce que dit Benjamin. Moi, je dis très souvent, on rentre plus dans une agence, on choisit son conseiller.
Ouais.
Et là, tu viens dire,
c'est ce que je disais avec la banque.
Mes équipes, et tu dis pas, c'est pas pour ouvrir le débat. En fait, c'est bien la relation que tu as créée avec tes vendeurs, acquéreurs, avec tes propriétaires, tes locataires, qui font la récurrence du business. C'est ça qui est majeur.
C'est la singularité, c'est ce qui fait la personnalité. C'est le général de Gaulle disait qu'il vaut mieux, que l'important, c'est pas de sortir de l'ENA, mais de sortir de l'ordinaire. Et c'est vrai que avec ton groupe, etc. Mais à chaque fois que je te vois, on a toujours ces anecdotes-là et c'est toujours un vrai plaisir. Un mot de conclusion, Xavier Belvaux, coproducteur de l'émission Débat Immo. Merci pour l'émission d'ailleurs, puisque c'était très intéressant comme sujet.
Je dis toujours, reculer n'est pas une option, c'est ma maxime, et en réalité, elle est cohérente, parce que je trouve que on doit regarder, on entend partout, les taux vont pas bien, etc. Et dans les faits, quand on regarde la réalité, ça va plutôt bien. On a même plutôt des abondements qui sont plutôt positifs. Voilà. Deux, je trouve également que le marché, mais je suis pas révélateur. Ça fait 18 mois que je suis comme ça. Forcément, un autre, ça va stabiliser ou ça baissera, etc. Mais dans les faits. Ce que je retiens, c'est la polyvalence. Premièrement, c'est qu'aujourd'hui, la polyvalence, elle est obligatoire dans tous nos métiers pour le conseil client. Le client, aujourd'hui, il recherche de la stratégie. Il a envie que son agent immobilier de proximité ou son conseiller soit en capacité de le conseiller très rapidement, un peu comme le fait un personal shopper sur différents sujets, parce qu'il est moins rapide, il est beaucoup plus en attente qu'avant avec tous les outils IA qu'on a. C'est-à-dire qu'il arrive, il a des vraies questions, il faut lui répondre rapidement, il faut le tenir. Deux, j'insulterai jamais l'avenir, c'est quelque chose d'important pour moi et c'est une phrase d'un grand copain, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer demain. Donc je pense qu'en réalité, l'immobilier, on verra ce que ça va pouvoir donner, mais si on est polyvalent, on peut traverser toutes les crises. Voilà. Et enfin, je pense qu'on a la preuve, en vous regardant tous les deux et moi maintenant, qu'on peut coexister sur n'importe quel modèle, parce que ce qui compte, en fait, c'est la relation qu'on veut créer en local avec le client que l'on a. Point.
C'est exactement ce que je retiens de ce débat, c'est la pluralité des modèles, avec un angle déterminé, résolu, qui est celui de l'entrepreneuriat, de l'adaptation à des nouvelles technologies, mais également de recentrer l'humain au cœur des préoccupations. Certains partagent de la valeur, d'autres ont des modèles économiques comme le tien, Olivier, effectivement, avec une communauté de milliers d'entrepreneurs, bientôt peut-être des millions d'entrepreneurs. En tout cas, ces modèles sont vertueux parce que respect. Moi, il suffit de voir les résultats et ils se traduisent tous les jours. Et ce que je dis, c'est qu'être là aujourd'hui, c'est bien, mais d'être là demain et après-demain, c'est encore mieux. Ça a été le cas, c'est le cas du groupe Mondou et c'est définitivement le cas d'IAD qui aujourd'hui est définitivement également le numéro un. Il faut souhaiter que vous le soyez et avec effectivement quelqu'un qui maintenant arrive sur le marché comme le réseau WeInvest qui est en train de bouleverser les
codes. J'ai pas la prétention d'arriver premier, ça sera pas un objectif.
Mais
dans les 5 premiers, dans les 10 ans, ça serait pas mal.
Tu disais, c'est bien de viser la Lune, et si on la loue, c'est pas grave, on atterrira parmi les étoiles, c'est déjà pas mal. L'important, c'est pas de gagner le marathon, mais c'est de traverser la ligne d'arrivée, je pense que c'est le bon résultat. C'était intéressant pour ce dernier numéro, justement, juste avant l'été, de Débat Immo. Un immense merci aux équipes de WeInvest d'avoir participé à tout cela. Un immense merci à notre super producteur Grégoire Darico, bien évidemment. Débat Immo, une émission à retrouver sur l'application et toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes de plus en plus d'ailleurs nombreux à l'écouter. C'est normal, elle a été construite pour vous les professionnels, bien évidemment. À lire et à relire sans modération le journal Expression, qui d'ailleurs fait partie maintenant de notre groupe, puisque j'en ai pris la direction de la publication. On a fait une première de coupe avec vous. Et vous avez également sur le site internet toutes les reprises qui ont été faites. On a un nouveau numéro d'ailleurs début septembre avec un autre patron d'un réseau, puisqu'on fera notre première de couverture début septembre avec le patron de XP. Ensuite, nous aurons d'autres grands patrons de l'immobilier également. Au niveau de l'agenda, on va vous retrouver à Roland-Garros pour la rentrée économique de France fin août. Ça sera le 26 et le 27 août en direct de Roland-Garros avec le MEDEF et toute l'économie également, mais y compris l'immobilier avec notamment les bailleurs sociaux. On enchaînera également avec le salon immobilier bas carbone au Grand Palais, bien évidemment. Toujours avec nos amis Xavier Bellevaux, le partenaire historique de notre radio. Merci Xavier. Avec Olivier Descamps, vous viendrez nous voir. On vous attend également à Roland-Garros au MEDEF avec grand plaisir. J'espère que tu reviendras souvent à Paris, mon cher Benjamin, parce qu'il faut vraiment que tu prennes la parole. Ça ne dépend plus même de vos responsabilités. Vous êtes aujourd'hui des exemples pour ceux qui veulent vous suivre et marcher dans vos pas. Moi, je trouve ça très bien et je trouve ça d'ailleurs extrêmement humain. Débat Immo, merci. Prenez soin de vous. Passez un bel été. Hydratez-vous parce qu'il fait très chaud un peu partout en France. Et on va se retrouver très rapidement pour un nouveau numéro de Débat Immo, bien sûr.
Débat Immo, une émission proposée par WeInvest, à réécouter et télécharger sur Radio Immo, Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.